pouvoir prier ensemble et maintenant pouvoir partager la parole de Dieu. Donc c'est vraiment un privilège pour Priscilla et moi-même de nous retrouver avec vous. On a beaucoup réfléchi aussi par rapport à notre collaboration aussi avec l'église de Saint-Maur. Donc j'espère avec les frères et sœurs qu'on va pouvoir continuer à collaborer au fil des mois qui vont venir. La façon dont le Seigneur va nous conduire, pouvoir continuer à s'encourager mutuellement. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment un plaisir pour nous d'être avec vous et de pouvoir encore étudier ce texte. Donc, déjà, je vous remercie, je loue le Seigneur pour la climatisation. Ça, c'est vraiment formidable. Ce matin, on était dans une église où il n'y avait pas ça et je vivais le texte de ce qu'on va lire aujourd'hui. Celui qui n'est loin de Dieu est comme un arbre desséché. C'était mon cas ce matin. Et là, avec la climatisation, on se sent restauré. Donc j'espère que ce qui se passe aujourd'hui va vraiment nous aider à vivre la parole de Dieu au mieux. Le contexte de Jérémie est un peu différent que la sécheresse qu'on a aujourd'hui en France. C'est le peuple d'Israël, le peuple que Dieu a choisi pour se révéler. Le peuple avec lequel Dieu a fait une alliance importante. Où il s'est donné à ce peuple, il s'est révélé à ce peuple, il a dit « Je suis l'Éternel ton Dieu » et le peuple devait répondre aussi « Tu seras notre Dieu éternel, nous obéirons à tes commandements. » Et comme vous le savez, le peuple d'Israël n'a pas toujours suivi cette alliance, il l'a plutôt transgressé plusieurs fois. Et le rôle des prophètes, justement, c'était de rappeler à ce peuple qui était Dieu. De rappeler à ce peuple que ce Dieu qu'ils sont en train d'oublier, qu'ils sont en train de mettre de côté, continue à penser à eux, mais continue aussi à être soucieux de cette alliance qu'il avait mis entre eux. Alliance dit promesse pour ceux qui respectent l'alliance, mais aussi dit conséquence lorsqu'on transgresse l'alliance. Et c'est ce que Jérémie vient rappeler dans ce contexte. Le peuple d'Israël est dans un contexte où beaucoup de gens, de nations se battent les unes avec les autres et essayent d'asseoir leur pouvoir, d'essayent d'asseoir leur autorité. Et Israël, petit peuple au milieu de tout cela, au milieu de la grande Égypte dans le sud, de la grande Assyrie dans le nord, eh bien, doit se faire sa place. Et parfois se tourne vers ces grandes nations justement pour trouver sa sécurité. Et aussi se tourne vers les dieux de ces nations pour trouver sa sécurité. Et c'est dans ce contexte que Jérémie, le prophète, apparaît et proclame à ce peuple qui est leur Dieu et où est-ce qu'ils doivent placer leur confiance, où est-ce qu'ils doivent vraiment placer leur sécurité. Et avant de rentrer dans le texte, j'aimerais vous poser une question. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde nos contemporains, ceux qui nous entourent, où est-ce qu'ils placent leur sécurité et leur confiance en ce qui concerne leur avenir? Lorsqu'on réfléchit à l'avenir, lorsque nos contemporains réfléchissent à l'avenir, dans quoi est-ce qu'ils mettent leur sécurité? Dans quoi est-ce qu'ils placent leur confiance? Et pour qu'on puisse répondre à cette question, comme vous savez, j'aime bien faire participer l'Assemblée, n'est-ce pas? Eh bien, je vous propose simplement de vous mettre par deux ou trois, là on va dire par trois, et réfléchissons à ceux qui nous entourent. En qui ou en quoi est-ce que nos contemporains mettent leur confiance, leur sécurité, leur assurance pour leur avenir? Quand on parle d'avenir, voilà, qu'est-ce qu'ils mettent de côté ou en quoi est-ce qu'ils veulent reposer leur avenir? Donc voilà, essayez de vous mettre par trois et deux minutes et puis on reprend. En quoi est-ce que nos contemporains placent leur confiance? Est-ce qu'on peut entendre peut-être deux, trois personnes sur ce que vous avez trouvé comme idée? Laurent, je sens que tu es motivé. Les jeux, c'est-à-dire? Les jeux de société? Pardon? L'argent, tout à fait. Oui, ça c'est, hein, n'est-ce pas? L'argent domine le monde pour certains. Est-ce que quelqu'un veut partager un autre domaine que vous avez vu où les gens placeraient leur confiance? Oui? Tout à fait. des gens seront rassurés quand ils sont entourés de beaucoup de choses. J'ai beaucoup, je possède beaucoup, donc c'est bon, je peux avancer avec confiance dans l'avenir. Un autre domaine que vous avez, oui. Notre famille. Donc, tu peux un petit peu expliquer ? Tout à fait, c'est très vrai, c'est très vrai. La famille parfois va prendre une grande importance et finalement on va se sécuriser parce qu'on a une famille, parce qu'on a des gens autour de nous. Alors l'argent, n'en parlons pas, mais effectivement, plus on a un grand compte en banque, plus on va se dire, ça va, je peux y aller en avant vis-à-vis de mon avenir, etc. Et on voit dans ce texte, c'est vraiment intéressant, c'est à peu près le même contexte pour le peuple d'Israël. Il a mis sa confiance en quelqu'un d'autre, en quelque chose d'autre que l'Éternel. Verset 5. Voici ce que déclare l'Éternel. Maudit soit l'homme qui compte sur des hommes et qui fait des moyens humains la source de sa force, mais qui détourne son cœur de l'Éternel. L'argent, en soi, n'est pas mauvais, n'est-ce pas ? La famille, heureusement, n'est pas mauvaise en soi. Le matérialisme, en tout cas posséder des choses, on va dire. Ah, je vois qu'on a tous voilà, des jeans, la moitié a des smartphones, hein, n'est-ce pas ? Il n'y a rien de mauvais là-dedans, dans la possession en soi. Oui. Mais ce que l'Éternel reproche au peuple d'Israël, c'est la fin du verset 5. Ces sécurités que vous avez placées, qui sont peut-être bonnes au départ, elles sont devenues des barrières entre vous et moi. Elles sont devenues, finalement, votre force première, votre sécurité première, votre première ressource pour faire face à cet avenir. Et c'est ça, finalement, que l'Éternel reproche à Israël. Et cela ne s'est pas, cela a commencé de l'intérieur, mais cela s'est manifesté aussi par l'extérieur. Ils ont commencé à adorer d'autres dieux, les dieux de ces rois qu'ils pensent être puissants. Parce qu'en ce temps-là, dans l'Ancien Testament, souvent, chaque peuple avait son dieu, n'est-ce pas ? Et Israël avait son dieu. Et en fait, on mesurait la force des dieux en fonction de la victoire qu'on remportait sur l'autre peuple. Toi, ton dieu, c'est qui ? Eh bien, tu vas voir notre dieu, puisqu'on va vous terrasser, eh bien, c'est notre dieu qui est le plus fort. Et ils avaient vu que les grandes nations comme l'Assyrie et l'Égypte, ah, elles étaient quand même victorieuses, elles étaient quand même impressionnantes. Ils ont commencé tout simplement de l'intérieur à se détourner, à commencer à glisser en se disant « c'est sûrement là-bas qu'on va avoir notre sécurité, c'est sûrement là-bas qu'on va avoir notre force. » Et c'est ça que l'Éternel reproche à son peuple. Alors les conséquences sont fortes. L'Éternel dit, si ta sécurité, c'est l'argent, si ta sécurité, c'est le matérialisme, c'est posséder, si je possède pas, je suis pas à l'aise. Si ta sécurité, ta première sécurité, c'est ta famille, alors il dit pas, ah, ce serait bien que tu rajoutes aussi Dieu. Il dit, maudit. Maudit. C'est fort. Quand Jésus utilisera l'image de quelqu'un qui a pris d'autres choses que lui comme son soutien dans sa vie, il dira, c'est comme un fou qui construit une maison sur le sable. Christ doit être le centre de notre vie et rien d'autre. Là est tout le centre, là est tout notre appel. Quelles sont les conséquences de quelqu'un qui se met à poser sa vie, les fondements de sa vie, de sa sécurité sur ce genre de choses ? Eh bien, il est comme un buisson dans le désert. Il ne verra pas arriver le bonheur. Il aura pour demeure un aride désert, une terre salée, où n'habite personne. Si tu veux juste montrer la petite image du dry desert. Un arbre sec dans le désert. C'est ce que je disais tout à l'heure, ce matin, j'ai eu l'occasion de voir ce que c'est d'être dans le désert et de devoir continuer à vivre dedans, la sécheresse. Eh bien, l'Éternel dit, si tu places ta confiance autre part qu'en lui, tu as cette même c'est cette image que Dieu utilise pour nous. Il y avait un homme, c'était un grand businessman, il a réussi, il a créé des entreprises, il a construit beaucoup d'entreprises et il avait été tellement dans le succès que des magazines ont dit c'est lui c'est l'homme d'affaires de l'année, il est juste exceptionnel. Et on l'invite justement à cette occasion, voilà, l'homme d'affaires de l'année, donc une grande université renommée aux États-Unis, et il vient. Et voilà, tout le monde dit, mais lui, c'est lui qui a réussi dans la vie, quoi. Moi, je veux être comme lui, là. Voilà, lui, il est connu, il a l'argent, il a le pouvoir, il a la célébrité, mais quoi de mieux, quoi. Il devait avoir un peu plus de 50 ans. Et il arrive, et donc il fait son discours en remerciant, voilà, en parlant qu'il s'est battu pour arriver à ce niveau-là. Et à la fin de son discours, devant les caméras, devant des centaines de personnes, il fait... Seigneur, non, pardon, je dis pas Seigneur. Il fait, papa, est-ce suffisant? Est-ce suffisant maintenant? Il parlait à son père qui était mort, pour qui il avait vécu et il s'était donné. Il avait fait tout ça, toujours dans son cœur, avec cette volonté de plaire à quelqu'un qui était déjà décédé. Et il a tout fait, et tout le monde le voyait et disait, mais c'est formidable ce qu'il a. Et cette personne n'était pas du tout heureuse. Au contraire, elle était malheureuse parce qu'elle ne savait pas finalement si ce qu'elle avait fait a vraiment de la valeur ou pas. Si on met notre confiance, si on met notre vie, si on met ce que nous sommes, si on base ce que nous sommes et ce que nous vivons sur des choses instables, alors un jour elles s'écrouleront et nous serons comme ces arbres qui sont secs dans le désert, qui n'ont aucune ressources, qu'il n'en soit pas ainsi pour les chrétiens. Ce qu'on a dit en fait des hommes et des femmes tout à l'heure qui nous entourent, on est d'accord que ça peut nous arriver comme chrétiens, qu'on puisse s'appuyer sur le matérialisme, qu'on puisse s'appuyer sur l'argent, qu'on puisse s'appuyer sur notre famille. Eh bien le Seigneur nous encourage à vraiment nous poser la question, où est ta confiance aujourd'hui? Où est ta sérénité? Une des façons de voir si je me suis trop attaché à quelque chose, c'est si je perds cette chose, est-ce que je m'énerve? Ça, c'est vraiment une des façons de voir. Ou si j'accomplis quelque chose et que ça rate, est-ce que je m'énerve? Ça, c'est aussi de voir un petit peu, de mesurer l'importance que cette chose a prise dans ma vie. Le Seigneur nous appelle à être des frères, des hommes et des femmes en paix, n'est-ce pas? Beaucoup de textes dans la parole de Dieu nous appellent à être des hommes et des femmes en paix. Et bien qu'il en soit ainsi pour chacun d'entre nous, frères et sœurs, ici à Saint-Maur. Heureusement, Dieu donne la direction. Il dit, ces choses ne sont pas bonnes, comme au peuple d'Israël. S'appuyer juste sur la Syrie ou sur l'Égypte n'est pas bon. Par contre, voici ce qu'il en est. Voici le chemin que vous devez suivre. D'un côté, il y a eu maudit, mais heureusement, il n'y a pas que maudit. Il y a aussi béni. Béni soit l'homme qui se confie en l'Éternel et qui place sa confiance en l'Éternel. Il sera comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses fleurs restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et il ne cesse pas de produire du fruit. J'aime bien dire que celui qui connaît Jésus doit être le plus heureux du monde. Amen. Celui qui connaît Jésus a tout ce qui est nécessaire pour cette vie. Tu as beau tout avoir sans Jésus, cela est inutile. On le voit, les personnes, même les gens qui ne sont pas chrétiens, savent que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Certains vous diront, mais il contribue. Mais on sait que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Tout le monde en est convaincu, mais on y va quand même. Où c'est l'argent? Où c'est? Et pourtant, on sait que ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. On sait que les hommes peuvent nous décevoir. Les hommes et les femmes autour de nous peuvent nous décevoir. On sait que nos propres forces, que nous-mêmes, nous sommes limités. Que l'homme a des capacités complètement limitées. Il fait tout pour les surpasser. Vous savez, les pharaons égyptiens, donc ils se faisaient momifier dans la perspective de dire on va essayer de se conserver et de pas dépérir. Quand tu momifies quelqu'un, normalement ça va conserver ton corps un maximum, parce que c'est vrai que quand on, comme la parole de Dieu le dit, hein, quand tu es poussière, tu redeviendras poussière quand tu décèdes. Et donc il voulait aller au-delà, à l'encontre de ce mécanisme naturel. Donc on va nous momifier et on va nous conserver. Je ne sais pas si vous avez vu au musée du Louvre à quoi ça ressemble une momie. Quelqu'un qui était momifié, c'est pas très beau, hein. Donc ils ont pas trop réussi dans leur système. Mais voilà, on veut aller au-delà des limites que nous avons. Si tu n'as pas Jésus, c'est pas qu'il te manque quelque chose, c'est que tu n'as rien véritablement devant Dieu. Tu n'as rien qui est durable. Tu n'as rien qui peut véritablement te porter. Et Jésus veut te porter. Mais si tu as Jésus, alors tu as tout. Tu as tout. Tu as un contact avec celui qui a créé le ciel et la terre, le maître de l'univers. Tu es pardonné de tous tes péchés. Tout ce qui entravait ta vie et ta relation avec Dieu est effacé. Tu as une nouvelle famille. Tu as un accès à ce qu'on appelle la vie éternelle. Tu as maintenant le Saint-Esprit même de Dieu en toi, qui veut te transformer et te libérer. Et qui veut te faire comprendre ce qu'est le vrai fruit de l'esprit. Cette plénitude de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté. L'amour, ça c'est ce que Dieu veut impacter dans nos vies. Un jour, il y a quelqu'un qui était missionnaire dans un pays, dans une région de l'Inde. Et un homme qui aimait Jésus de tout son cœur. Et il rencontre une famille, donc une mère avec sa petite fille. Et donc il parle avec la mère, il accueille la mère et tout. Et la petite fille, donc, qui avait entendu parler de Jésus, elle voit ce monsieur s'éloigner, elle dit « Maman, c'était Jésus ?» Tellement elle avait été touchée par l'amour de cette personne, frères et sœurs, qu'à chaque fois des enfants nous voient, ils disent « Maman, c'était Jésus ?» Amen. Et que cela fasse réagir de façon bonne ou négative, mais qu'en tout cas, on puisse impacter par notre vie qui est Jésus-Christ. C'est notre appel, frères et sœurs. Vous avez reçu tout en Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on peut dire que vous êtes en Jésus-Christ comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui étend ses racines vers le ruisseau. Il ne redoute rien lorsque vient la chaleur. Ses feuilles restent vertes. Il ne s'inquiète pas pendant l'année de sécheresse et ne cesse de produire du fruit. Alors ça ne veut pas dire que tout se passe bien, n'est-ce pas ? La sécheresse arrive quand même. On est quand même parfois dans des situations délicates et difficiles. Mais Dieu veut que notre foi et notre confiance soient en lui pour que nous puissions dire « Je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas comment ça va se libérer, mais je sais une chose, tu t'en occupes, Seigneur. Je sais une chose, tu as pris les choses en main, Seigneur. » Là est l'appel du Seigneur pour chacun d'entre nous. Une question est, aujourd'hui, mon frère, ma sœur, où sont tes inquiétudes ? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie prochainement que tu dois faire face ? Et où, justement, c'est une opportunité pour toi de replacer ta confiance dans celui qui est vraiment digne de confiance. Quelles sont tes inquiétudes aujourd'hui ? Quelles sont tes craintes par rapport à ton avenir ? Quelles sont les situations dont tu n'as pas forcément le contrôle? Est-ce que tu les abordes en te disant « Faut que je mette des choses de côté pour avoir la sécurité » ou est-ce que tu les abordes en disant « Seigneur, tu es ma sécurité par rapport à ces choses-là » Où as-tu placé ta confiance pour ce qui va arriver? Il ne redoute rien. Et il ne cesse pas de porter du fruit. Alors, aujourd'hui, on a beaucoup de... Je ne sais pas si tu peux mettre l'image beautiful. Beautiful. Voilà un arbre planté près d'un courant d'eau. C'est ce que le Seigneur propose pour chacun d'entre nous. Je ne sais pas si vous entendez, ces derniers temps, on a beaucoup... Plus notre société individualiste avance, plus on voit cette volonté de mettre en place des développements personnels, du coaching, qu'est-ce qui permet d'épanouir ma vie. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Moi, dans mon travail, il y en a pas mal qui commencent à faire ça, à lire des bons livres qui vont te motiver dans ta vie, etc. Et même parfois, dans le milieu chrétien, hein, on a aussi ce genre de message. Vas-y, qu'est-ce qui motive ta vie, te développe et tout. Mais la parole de Dieu, elle dit, mais reviens à la source. reviens à la source, reviens au plus important. Et là, naturellement, tu vas être un feuillage vert. Naturellement, tu vas porter du fruit. Naturellement, des choses vont venir en toi. Mais avant tout, reviens à la source. C'est ça le plus important. C'est pas les techniques, les méthodes ou autre chose qu'on te proposerait. C'est en qui as-tu placé ta confiance. Ce que j'aime bien dans la fin de ce verset, il ne cesse pas de porter du fruit, c'est que quand on regarde un arbre et qu'on voit le fruit, c'est vrai que la parole de Dieu souvent dit tu vois la qualité de l'arbre en fonction de son fruit, mais la notion du fruit, quand un arbre porte du fruit, c'est pas pour lui, n'est-ce pas? C'est pas forcément l'arbre, ça, c'est pas l'arbre qui va manger son propre fruit, c'est plutôt ceux qui l'entourent. Quand on porte du fruit, quand on est appelé à porter du fruit, c'est parce qu'on est appelé à bénir autour de nous. Et ça, c'est un des axes les plus importants de la vie chrétienne. Celui qui porte du fruit, celui qui se développe en Jésus et qui grandit, nécessairement impacte les autres. Et c'est ça, la perspective que Dieu donne. Vous connaissez tous ce verset où on a dit à Jésus, mais quel est le plus important commandement? On sait que Jésus en a donné combien? 2. Il a dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, toute ta force, toute ta pensée. Plus important, et qui concerne effectivement cet appel, viens et donne-toi à la source de vie. Mais je ne peux pas le détacher de la deuxième perspective qui est « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Si nous sommes chrétiens, si nous nous réclamons de Jésus-Christ, nous avons ces deux axes à développer, toujours. Développe ta relation personnelle avec Dieu, ton engagement envers lui, ta consécration, mais absolument, aussi dans un même élan, ne néglige pas la perspective de bénir les autres, de soutenir les autres, d'aider les autres, d'encourager les autres, de leur communiquer l'évangile. Cela ne peut pas être dissocié. Jean sera très très catégorique, il dira, mais si tu dis que tu aimes Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain, mais tu ne connais même pas Dieu. Ah, il est très catégorique. C'est marrant parce que Jean, on le voit plutôt comme cet apôtre de l'amour, mais l'épître de Jean, elle rigole pas. Hein. Tu pêches, tu ne connais pas Dieu. Oh. Ne détachons pas ces choses-là. Rapprochons-nous de Dieu, toujours plus, mais donnons-nous aux autres. On va me dire, mais comment alors, comment? Eh bien, j'aimerais lire ce texte que nous connaissons bien, Jésus qui reprend l'image aussi de cette croissance d'un arbre. Donc c'était assez commun dans cette culture. Ils avaient un peu plus de nature autour d'eux que nous, et ils étaient plus en contact de la terre que nous. Donc ils voyaient très bien comment les choses grandissaient, on touchait avec les mains les arbres, on s'occupait d'eux. Eh bien Jésus va utiliser l'image du cep et de sarment dans Jean chapitre 15, que je vous invite à prendre. Et si quelqu'un veut bien lire Jean chapitre 15, les versets 1 à 12. On va même aller jusqu'au verset 14. Quelqu'un qui veut bien lire fort et calmement.
Déjà, vous êtes plus proche de la parole, c'est plus de la parole. Demeurez en moi, demeurez en moi. Comme le parent, je vous le lui-même porte. Si vous ne le rattachez pas, ainsi, au bout de vous, vous demeurez en moi. Si le père, vous êtes là. Oui, demeurez en moi, dans tout le monde, porte au bout de vous, car sans moi, vous êtes en moi. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, Je devrais en moi, et par le temps, je m'en ai plus beaucoup de temps,
Merci beaucoup. Amen. La parole de Dieu. C'est un des plus beaux textes de la proclamation de la vie chrétienne. Tellement complet, tellement riche. Juste prendre quelques images là-dedans pour illustrer notre message et pour être un peu plus concret sur comment justement reconcentrer notre vie sur l'essentiel. Déjà, eh bien, ça passe par être accroché à celui qui est la vie. Première question, c'est suis-je accroché à celui qui est la vie, Jésus-Christ ? Est-ce que je fais partie de sa famille ? Est-ce que je fais partie de ceux qui sont aujourd'hui ses amis ? C'est le premier appel. Et c'est un appel pour chacun d'entre nous, et en particulier pour ceux qui peut-être n'ont pas fait ce pas, de venir à Jésus-Christ et de l'accepter comme étant celui qui te pardonne, mais maintenant celui qui dirige ta vie. C'est la première étape. Et elle peut être faite à n'importe quel moment. Dès aujourd'hui, si tu sais que tu n'as pas encore fait ce pas important, on peut le faire ensemble. La deuxième étape, elle s'associe à la première, c'est accepter l'autorité entière de Jésus. Il dira, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, c'est là que les choses vont se faire. Gardez mes commandements. Es-tu prêt à garder les commandements du Seigneur ? Es-tu prêt à garder sa parole ? Quand je parle avec mes collègues, je me rappelle un jour à parler avec une collègue et je lui dis, mais comment tu vois la foi ? Qu'est-ce qui fait que tu es autant bloqué vis-à-vis de la foi ? Et elle me dit, mais la foi te limite ! La foi te limite ! Et elle voyait vraiment la notion de contrainte dans la foi. Elle avait connu un musulman et effectivement, la façon dont son ami musulman vivait sa foi, c'était vraiment une foi contrainte. Il faut absolument que je fasse ça, sinon ça va mal se passer pour moi, je vais être maudit, ça va être vraiment mauvais. Et parfois, en tant que chrétien, on pourrait aussi voir ça comme ça, la vie chrétienne, une vie de contrainte. Il ne faut pas que je rate le coche. Mais en fait, quand on est convaincu, et quand on sait que Dieu sait ce qui est bon pour nous et veut notre bien, alors on peut prendre les commandements comme étant quelque chose de bon pour nous, qui est véritablement la vie, la direction de la vie, et non pas comme une contrainte. J'aime beaucoup rappeler cette parole de Ralph Challis qui disait, mais vous savez, mais si le monde entier accomplissait le commandement de Jésus qui est aime ton prochain comme toi-même, mais en 2 jours on résoudrait tous les problèmes de cette terre. Allez, en 1 jour. Et il m'a marqué quand il a dit ça, c'est vrai. Si tout le monde aimait son prochain comme soi-même, si les Palestiniens et les Israéliens commençaient à dire, bon, je te fais pas ce que je veux pas que tu me fasses. Si, quand on voit ceux qui sont dans la faim, on commence à dire, écoute, si j'étais à ta place, voilà ce que j'aimerais que je te fasse. Ça, vous avez suivi? Les commandements du Seigneur sont pour notre bien, frères et sœurs. Ne les voyons pas comme étant une contrainte pour nous étouffer, mais au contraire, pour glorifier son nom, pour notre bien et pour le bien des autres. Ce sont les commandements du Seigneur. Donc, quand on lit la parole de Dieu et qu'on voit des encouragements qui nous semblent durs, disons-nous, c'est dur, mais c'est bien. C'est dur, mais c'est bon. C'est dur, mais c'est encourageant. C'est dur, mais c'est ce qui va faire du bien à ceux qui m'entourent et à moi-même. Première étape, attache-toi à Jésus. Deuxième étape, prends ses commandements comme l'autorité de ta vie. Laisse-le transformer, édifier qui tu es. Troisième étape, n'oublie pas que tout cela est fondé sur l'amour. Ils sont tous liés évidemment, mais juste sortir quelques éléments pour qu'on puisse bien les voir. Tout cela est fondé sur l'amour. l'amour de toi avec Jésus, l'amour de Jésus pour toi, l'amour de toi pour les autres. C'est ce qu'on vise. Si on devait dire quel est l'objectif de la vie chrétienne, je pourrais dire c'est glorifier Dieu par notre amour pour Dieu et notre amour pour les autres. Après, ça se décline. Donc il y a quelqu'un qui a écrit, c'est souvent les couples qui sont fans de ce livre-là, Langage de l'amour, les langages de l'amour. Donc différentes façons d'exprimer ton amour. Certains vont plus être sensibles au service rendu, d'autres vont plus être sensibles aux paroles d'encouragement, d'autres vont être plus sensibles aux cadeaux. Mais la perspective est la même. On veut aimer. Donc ton objectif est de glorifier Dieu par ton amour pour ton maître et par ton amour pour les autres. Comment bénir les autres? Ça, c'est une bonne question. Et c'est aussi ce à quoi Dieu nous encourage. Et enfin, la conséquence. C'est le verset 11. Pourquoi est-ce que Jésus a dit tout cela? Pourquoi est-ce que la parole de Dieu est aussi écrite? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous encourage dans ses commandements? Est-ce que quelqu'un veut bien nous relire le verset 11 du chapitre 15? Alléluia. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jésus était heureux, joyeux. Il savait qui il était, il avait une identité ferme. Il savait qu'il venait du Père et qu'il revenait au Père. Ben, cette joie qui a porté Jésus sur cette terre et qui a continué à se grandir, il veut la mettre en toi. Il veut la mettre autour des gens, auprès des gens qui t'entourent. Mais avant tout, viens à lui, accepte son autorité, vois que tout est fondé sur l'amour, et lui s'occupe du reste. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, prenez sur vous mon joug et recevez mes instructions, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Et vous aurez du repos pour vos âmes. Donc encore une fois, le commandement de Dieu est là pour te soulager, pour t'encourager, pour t'édifier. J'aimerais pouvoir prier pour ceux qui souhaitent justement venir à leur Dieu et dire « Seigneur, voilà, je suis fatigué, je me sens un peu comme cet arbre sec au milieu du désert qui a peut-être placé sa confiance dans les mauvaises choses, mais je veux replacer ma confiance au bon endroit. Quels sont les événements qui vont arriver dans votre vie très prochainement ?» Ça, ce sera une occasion tout à l'heure de prier. Et comment est-ce qu'on pourra mettre le Seigneur au centre? Donc ça, c'est la question que je vais laisser maintenant. C'est, on va revenir avec les personnes qu'on était tout à l'heure. Et on va terminer comme ça. Quel est ou quels sont les événements qui vont se passer dans votre vie très prochainement? On va dire dans les 2-3 mois, peut-être. Et comment est-ce qu'on peut mettre Dieu comme étant notre confiance dans ce domaine-là? Je vous invite à partager ça. Si c'est trop personnel, sentez-vous libre de ne rien dire. Mais, en tout cas, posons-nous cette question. J'ai des choses qui m'arrivent dans les prochains mois. J'aimerais mettre Dieu au centre, comme celui qui est ma force. Comment est-ce que je peux vivre ça? Donc, ce soit peut-être demain ou actuellement quelque chose dans votre cœur. Et comment est-ce que, justement, j'aimerais placer Dieu au centre? Et ensuite, je reviendrai pour clôturer par la prière. Alors, frères et sœurs, quelle joie de partager ensemble, n'est-ce pas? Un des éléments que je n'ai pas partagé, mais on vient de le vivre ensemble, c'est la puissance de la communauté. Encore une fois, notre monde est un monde individualiste, notre société, surtout occidentale, est un monde individualiste, mais la vie chrétienne n'est pas une performance individuelle. La vie chrétienne, quand Paul parle et écrit, à part quand c'est à des lettres des leaders spirituels, il parle à une église. Il parle à des gens qui vivent, qui sont censés vivre ensemble. Et ce qu'on est en train de vivre ensemble, à s'échanger nos sujets, comment est-ce que j'ai envie de grandir avec Dieu, ça c'est une des choses auxquelles le Seigneur nous appelle. Et je vous invite tout simplement à continuer ce travail maintenant, puisque je crois qu'on n'a pas eu l'occasion de prier, et que justement, vous puissiez prier les uns pour les autres et vous soutenir et vous encourager. Et n'oublions pas, nous sommes un corps et on grandit ensemble. Et donc, notre joie, c'est de voir aussi l'autre grandir. Donc, quand on va prier, vraiment, qu'on puisse prier notre plus belle prière pour lui. Vraiment, on imagine les plus belles choses. Quand Paul y priait pour son peuple, pour des personnes à qui il écrivait les plus belles choses. Il disait, mais que vous soyez remplis de toute la plénitude de Jésus-Christ, que vous puissiez, que Dieu révèle toutes les plus belles promesses dans votre cœur. Donc, n'hésitez pas, allez-y. Priez les plus belles choses pour votre voisin, pour votre voisine, que vraiment Dieu puisse lui faire du bien et qu'il puisse être cet arbre planté près d'un courant d'eau qui voit son feuillage vert et qui porte du fruit à sa saison. Et ensuite, je clôturerai. Seigneur, merci encore pour ce privilège immense de faire partie de ta famille. Éternel Roi, si des personnes ici ne te connaissent pas, qu'elles ne sortent pas de cette salle, Éternel Roi, sans avoir partagé leur cœur et recevoir ton salut. Si des personnes, Éternel Roi, ce matin sont accablées et découragées, qu'elles sachent que tu es celui qui veut porter leur fardeau. Si des personnes, Éternel Roi, sont peut-être tombées dans un endurcissement de cœur, que tu tout simplement leur réouvres le cœur et que tu leur montres combien ils ont besoin de s'ouvrir aux autres. Éternel Roi, que ta grâce se manifeste cet après-midi, que des gens soient transformés, que des vies soient restaurées, parce que tu es le puissant, tu es celui en qui nous voulons placer notre confiance, et que cette Église encore te glorifie toujours plus, que ce soit à Saint-Maur, dans la vie des gens qui les entourent ou même dans ce monde. Gloire te soit rendue, notre Dieu, notre Roi, en ton nom. Amen.